Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici, une heure ou presque, pour causer de tout, de rien, rire grassement à certaines blagues d'une légèreté somme toute discutable, s'émerveiller devant les anecdotes rurales de certains membres éminents de cet équipage millénaire ou tout simplement faire preuve de la légendaire mauvaise foi qui nous caractérise et nous unit. On prendra aussi le temps de répondre à vos questions, évidemment, car c'est l'usage. Pour alimenter le feu brûlant de la conversation, ils seront 6 à se le relayer autour de la table ici à l'antenne Paris. Arnaud Bordas, Lélo Jimmy Battista, Rafik Djoumi, Julien Dupuis, David Honora et Stéphane Moïsakis. Les films dont on n'a pas eu le temps de vous causer cette année, les affiches de films et l'OPA en cours du CNC sur le genre à la française, ce sont les sujets de ce Nos Ciné Club 12e du nom et c'est parti.
Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Avant notre premier sujet, Julien, on peut dire un mot au sujet de quelqu'un qui nous a quitté tout récemment, Samuel Adida, grand producteur français qui est mort il y a quelques semaines. On voulait quand même profiter de cette tribune pour en dire quelques mots.
Pour le saluer, parce oui. qu'il a fait beaucoup, enfin moi, à mon sens, pour le cinéma français. Il avait un statut un peu à part. En fait, Samuel Adida, il a commencé, j'ai envie de le dire un peu par le bas, en fait, en tant que distributeur avec son frère et son père. Ils ont fondé Metropolitan, qui a vraiment pris son essor dans les années 90, à la fin des années 80. Oui. Ils ont fait quelques beaucoup, déjà en distribuant quelques Vandamme. Et puis ensuite en signant un accord, en fait, avec la firme New Line, indépendante de Don Shea. Qui leur a permis de remporter des très gros succès, et notamment, je pense que c'est vraiment là où ils sont passés à la vitesse supérieure, Seven, qui avait été un triomphe en France. Je crois que ça avait rapporté juste sur le territoire français quelque chose comme 30 ou 40 millions de dollars, ce qui est énorme.
Oui, c'est énorme.
Parce qu'on parle pas souvent en tant que monnaie, en fait, sur la distribution française, mais là on se rend compte un peu de la manne financière qu'il y avait à sa disposition, et qui est devenu ensuite l'argentier de certains projets de Christophe Gans. Alors bon, il y avait ses films, hein, et il a contribué d'ailleurs au Pacte des Loups, qui est, quoi qu'on pense du film, en fait, un jalon dans la cinématographie française et de la façon dont la France essaye de réintroduire le cinéma de genre, un cinéma de genre populaire. C'est ce qui avait été une réussite publique, hein, oui. Pour le coup. Avant, ils avaient fait ensemble Crane Freeman, ils avaient fait Necronomicon aussi. Et aussi, ce qui est peut-être encore plus notable, c'est que dans la lignée, en fait, du succès de Crane Freeman, ils avaient lancé le label EHK, toujours grâce à Christophe Gans, mais c'est Samuel Adida qui alignait les pépettes, et ils nous ont permis, enfin en tout cas moi, ils m'ont permis de vraiment découvrir le cinéma, notamment de Touareg. Il y avait une édition de cassettes vidéo qui était un peu pour la gloire pour certains, parce qu'il y avait des ventes qui étaient très basses, notamment en Kaiju Ega, mais Il les sortait tous. Adida, il avait aussi, de temps en temps, il avait vraiment le nez pour découvrir certaines personnes. Je veux dire, Tarantino, s'il est devenu Tarantino, c'est en grande partie grâce à Samuel Adida. Je crois que c'était Metro qui distribuait Reservoir Dogs en France. Il a produit True Romance, qui était un scénario de Tarantino. Il a d'ailleurs travaillé avec Tony Scott par la suite sur Domino, si mes souvenirs sont bons. J'espère que je ne raconte pas trop d'âneries. Et il a participé, pour moi en tout cas, et pour, je pense, tous les amateurs de cinéma de genre qui ont vécu et grandi dans les années 90, c'était une figure très très importante, en fait, de ça, puisque il distribuait beaucoup de films qui comptaient, quoi. On peut se rappeler de Dark City, par exemple. Oui. Et le truc avec Adidar, moi je le connaissais pas personnellement, mais je l'ai vu dans beaucoup d'interviews, je l'ai croisé de loin, etc. Et il avait, c'était un homme d'affaires, hein, c'est indéniable, mais il était passionné, enfin, hein, tu sentais qu'il vivait ça, quoi. À l'époque où il faisait encore des grandes projections de presse sur les Champs-Élysées, qui est une époque un peu révolue aujourd'hui, il était souvent là, en fait. Il essayait de tâter le terrain, de voir un peu comment le public réagissait. Donc voilà, il laisse quand même, il laisse un trou parce que c'était une personnalité forte. Oui. Et puis c'était un peu le porte-parole, c'est-à-dire qu'il était beaucoup plus mis en avant, il se mettait en tout cas beaucoup plus en avant que son frère. Malgré tout, donc je pense que Metropolitan va lui survivre, hein, mais je vois pas trop d'équivalent aujourd'hui, en tout cas en France. Voilà. Et d'ailleurs, sur la lignée aussi de New Line, ils avaient aussi signé, alors je sais pas si c'est encore d'actualité, mais un deal avec Lionsgate qui leur a aussi apporté quelques beaux succès notamment, hein, oui, les Hunger Games. Voilà.
Très bien. Notre premier sujet de ce club 2018 touche à sa fin. Déjà, c'est passé si vite. On a vu tant de belles choses cette année. Un raccourci dans le temps, le 15h17 pour Paris, Tomb Raider, Pacific Rim 2, Avengers, Death Wish, Solo, Jurassic World, Upgrade, Bohemian Rhapsody. C'était super. Non ? Non ? Toujours pas. C'est pas grave. Je taquine. Évidemment, il y a eu des belles choses, ne serait-ce que Les Veuves, qui est en ce moment à l'affiche, qu'on vous conseille, qu'on a fortement conseillé dans nos ciné, ou Les Indestructibles 2, que Stéphane Moïsakis regarde religieusement tous les deux jours, ou Ready Player One, entre autres, quelques autres aussi, dont on n'a pas eu le temps de causer. On va essayer de rattraper ça ici. Qui commence ? Jimmy, tiens. Jimmy, toi, t'avais plusieurs, plusieurs bah, films c'est dans aussi, ta voilà, besace.
J'ai des goûts un peu bizarre, craignos, oui. Donc j'ai quand même réussi à caler un extra sur Mandy, c'est déjà pas mal.
C'est vrai.
Moi, dans les films sur lesquels on n'a pas fait d'émission, qu'on n'a pas vraiment cité dans l'année, le premier qui me vient en tête, c'est First Reform de Paul Schrader, ouais. Qui est un film qui marque un peu le retour de Paul Schrader à des films plutôt corrects, parce que ça faisait un moment qu'il en avait pas fait. Ça faisait 20 ans qu'il faisait vraiment des choses assez médiocres. Et il y a aussi
voire même catastrophique.
Voilà, j'étais poli.
Nicolas Cage.
C'était horrible. Voilà. Et pourtant, Nicolas Cage. J'étais prêt à l'excuser, quoi. Et aussi le retour d'Ethan Hawke, qui n'avait pas fait grand chose non plus, quoi. Enfin, pour moi, c'est un gars qui était mort après avoir fait le Hamlet en 2000. Moi j'adore Hamlet, hein, mais la pièce, je veux dire, mais il a fait une adaptation d'Hamlet par je sais plus qui, avec Kyle MacLachlan. Enfin, il faut le voir, hein, c'est incroyable. C'est assez, assez fabuleux. Et donc là, non, voilà, il revient avec une histoire un peu, enfin, une histoire qui est hyper actuelle, sur un prêtre qui est pris dans des histoires un peu de terrorisme écologique. Et j'ai trouvé ça hyper bien, d'autant plus que c'est vraiment un film que la première fois que je l'ai vu, j'ai trouvé ça vraiment pas terrible. Et le film m'est resté en tête pendant des semaines et des semaines, je l'ai revu. Et au fur et à mesure, je me disais, ce film, il est assez incroyable, quoi. Et c'est uniquement en VOD, par contre. Il n'est pas sorti au ciné, malheureusement. Il est sorti en France sous un titre complètement craignos qui s'appelle Sur le chemin de la rédemption.
Pas mal. Ils se sont bien creusés.
Je sais pas, tu t'attends à voir Richard Boringer arriver à un moment. Et voilà, quoi. Il y a celui-ci, il y a quoi d'autre ? Il y a Sophie Antipolis, Virginie Vernier, sur un truc un peu plus contemplatif, expé, machin. Enfin, moi, je sais, pour le coup, j'ai vraiment adoré. Je trouvais ça assez étouffant, assez oppressant comme film. Je connais bien Sophie Antipolis en plus. Si vous voulez une anecdote, je vais te la donner. c'est le patelin où a grandi ma femme.
On arrive. On arrive sur les anecdotes.
C'est le Palo Alto le Palo Alto français, quoi. C'est la Silicon Valley française près de Cannes et d'Antibes. Et c'est une ville absolument abominable. Enfin, c'est une espèce de cauchemar avec un climat californien, quoi.
Qui est bien retranscrit dans ce film.
Il ferme mes courses.
Justement, je te me disais, voilà,
c'est pour vrai une que fois, nous avons un représentant de
pour
la,
une fois
de
qu'il
la
est là, il va pouvoir un peu nous faire un peu un brief. Non, parce que moi j'ai vu des trucs là-bas. En me promenant dans une forêt, j'ai croisé des gens en costard avec des sacs plastiques qui erraient, quoi, dans la forêt. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette ville?
J'ai pas vu ça, moi.
Non, mais par contre, oui, voilà, c'est des coins un peu.
C'est Antipolis Underground.
Ouais, plutôt Underground. Bon, après, on va pas non plus tracer du côté de Grasse et tous ces coins-là qui sont encore plus.
problématique.
Ok, on s'éloigne de notre sujet. Et donc, parmi les autres films, Jimmy, à part tes pérégrinations dans le sud de la France.
Ah, si, si, il y a Gutland qui était pas mal aussi, même si la fin est complètement foirée. C'est un film luxembourgeois. Le réalisateur s'appelle Govinda van Mijl et alors ça a été décrit comme une espèce de Get Out luxembourgeois, ce que je trouve pas vrai du tout. Enfin, déjà je trouve vachement mieux que Get Out. Et en fait, quand on connaît le Luxembourg, c'est plutôt intéressant aussi.
Tu parles que des films dont il faut connaître les
lieux. Attends, j'ai encore pire. J'ai Diamantino de Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt qui est là. Moi, je l'ai trouvé hilarant, mais parce que je connais l'accent des Açores. Parce que quand tu connais Alexandre Desassors, ce film est hyper drôle, mais sinon c'est ultra spécifique. Sinon il y a dans les trucs qui sortent à bientôt, il y a Utoya 22 juillet aussi qui est pas mal, que je trouve plutôt
pas guiré mais pas mal.
Non, pas guiré du tout, mais malgré aussi pareil une fin un peu ratée, mais c'est un plan. Enfin, je pense que ça a déjà été décrit un peu partout, mais c'est un plan séquence sur le massacre d'Utoya en Norvège. Et moi j'ai eu le malheur de le voir deux fois en fait. La deuxième fois ça marche moins bien, on voit un peu tous les défauts, mais sur une seule vision, c'est vraiment, vraiment percutant. Quoi.
Très bien. Voilà. Julien, pareil, tu avais un reproche à me faire.
Oui, parce que j'ai demandé à ce qu'on en parle, et puis tu n'as pas voulu. Il faut que le monde sache. Mais j'avais réussi à en parler un tout petit peu, mais pas assez. C'est à la poursuite de Ricky Baker, qui est le film de Taika Waititi, qui n'est pas sorti en salle en France. Et c'est pas normal. C'est d'autant moins normal que je pense que le film avait un vrai potentiel en fait, pour plaire au public. C'est entre le survival et le film d'aventure et le récit initiatique. C'est un gamin à problème qui se retrouve recueilli par une famille de redneck néo-zélandais, et suite à plusieurs pérégrinations, j'ai pas trop envie de dévoiler tous les trucs, mais en fait il va devoir s'enfuir en fait dans la forêt, accompagné de son père adoptif, mais qui est un père adoptif qui ne veut pas de lui, qui est joué par Sam Neill, qui est absolument génial et qui, je pense, joue un peu son propre rôle. C'est-à-dire Sam Neill, il a une ferme comme ça, et c'est un peu un ermite en fait. Ouais. Et du coup, je le trouve habité en fait par le rôle. Et donc, ils vont devoir se réfugier dans la forêt. Ils vont être poursuivis à peu près par tout ce que la Nouvelle-Zélande compte de. Par toute la Nouvelle-Zélande en fait. Donc, aussi bien les flics que des chasseurs, etc. Alors moi j'avais beaucoup aimé Vampire en toute intimité, dont on avait déjà parlé pour le coup, on avait fait un extra ouais. Ça s'appelait déjà un extra
qui est sur Netflix d'ailleurs,
voilà. Il l'a fait juste avant son Thor en fait, son Marvel en fait, Taika Waititi. Et ce qui est assez parmi les choses qui sont impressionnantes en fait dans la poursuite de Ricky Baker, c'est l'évolution stylistique du gars. C'est-à-dire que Vampire en toute intimité, c'était un found footage, en tout cas un faux documentaire, un peu à la Spinal Tap, ce qui permet en fait d'avoir une mise en scène un peu relâchée, beaucoup de caméras portées évidemment, ça te permet aussi d'avoir des ellipses très marquées comme ça au montage. Et Ricky Baker, c'est vraiment l'exact opposé, c'est-à-dire c'est une mise en scène beaucoup plus léchée, beaucoup plus tenue, qui gère super bien tous ses effets. Alors, aussi bien il y a une façon de magnifier totalement la nature néo-zélandaise, ce qui fait sens en fait dans le propos du film, qui est génial, parce que l'histoire, c'est aussi l'histoire de ce petit gamin qui est joué par Julian, je me rappelle plus de son nom, enfin qui était le gamin qui a été récupéré après dans Deadpool 2, qui est un petit gros énorme, mais qui est formidable en fait dans le film, qui est nul dans Deadpool 2, mais qui est vraiment très très bien dans la poursuite de Ricky Baker. Et le truc, c'est que c'est un môme qui ne connaît basiquement que la ville et qui fait tâche en fait dans la nature. Oui. C'est-à-dire qu'il l'habille avec des couleurs criardes parce que le gamin il est féru de hip-hop, etc. Donc il s'habille comme ça un peu de façon hyper voyante. Et en fait, c'est comment aussi ce môme va se retrouver en étant nouveau en symbiose avec la nature. Alors quand je le sors comme ça, là, ça a l'air super relou et tout, mais ça reflète pas le film en fait, ce que je suis en train de dire. Ça, c'est le sous-texte. Le film, c'est vraiment un divertissement très enlevé, généreux, super drôle, très émouvant. Il y a vraiment des scènes qui tire presque la larme à l'œil, et vraiment c'est à voir. Alors je crois que non seulement c'est pas sorti en salle, mais je crois que c'est sorti chez ESC uniquement en DVD. Donc vraiment dans le genre sortie sacrifiée, oui. ça se pose là. Et un petit truc aussi d'ailleurs, je pense à un autre film dont on n'a pas parlé qui s'appelle Jersey Affair, qui était sorti l'été dernier et qui est un qui est une espèce de thriller sur l'île de Jersey où en fait c'est plus ou moins une espèce de récit intérieur sur une fille de bonne famille qui va s'acoquiner avec un mec avec qui elle devrait pas s'acoquiner et qui va en gros se révéler à elle-même et au monde à travers ça. Qui est c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est très bien joué. L'utilisation de Jersey, en fait, je pompe un peu de Jimmy là, mais oui. L'utilisation de Jersey est vraiment bonne. C'est-à-dire que t'as une vraie opposition entre les scènes d'intérieur qui sont toutes en tension sourde, et puis les scènes en extérieur qui sont beaucoup plus relâchées. Il y a beaucoup plus de fougue. C'est pas un grand film, encore une fois, mais c'est plutôt sympa. C'est un film qui est passé un peu sous les radars, qui est sorti en salle. Alors, je crois qu'il est pas encore sorti en DVD, peut-être. Qu'il l'est, je sais plus. Enfin bon, voilà, si vous avez l'occasion de voir ce film, c'est plutôt recommandable.
Ça se rattrape, voilà. Ça se rattrape très bien. Arnaud.
Alors, c'est les films dont on n'a pas parlé cette année.
Oui, c'est ça.
Alors,
Bonjour.
Ça va, hein.
Bon. Julien Denison, merci à l'iPhone de.
Il
est revenu à mon secours.
Donc, moi, le film qui a retenu mon attention cette année, dont vous n'avez pas parlé, c'est Avengers Infinity War. Ah ouais, j'hallucine quand même. Quoique. Bon. Non, moi, je vais faire peut-être une spéciale Netflix. Désolé, hein, je ne suis pas rémunéré par eux, mais.
Mais il n'y a pas de souci.
Je sais que j'ai vu en début d'année sur Netflix un chouette film d'horreur. Alors, c'est-à-dire, moi, j'ai un vrai problème avec les films d'horreur à l'heure actuelle, quoi. Bon, c'est un genre vers lequel je suis naturellement porté, on va dire.
Tout à fait.
Mais je trouve que le genre se résume à une offre totalement binaire à l'heure actuelle, c'est-à-dire soit des machins à la Conjuring, des à
base. Des Bloomery.
Ouais, non, mais surtout des films d'horreur, enfin qui apparemment font un gros effet sur les spectateurs. Hein, je ne me l'explique toujours pas, mais ce qui sont des trucs de bouffez-moi peur,
jumpscare,
voilà,
partout,
base de jumpscare, on fait sursauter. Là, bon, voilà, moi je comprends pas trop ce truc-là. Et sinon, c'est on va dire un petit peu. La mainmise de Sundance sur le cinéma d'horreur, quoi, avec des films indépendants, voilà, qui me plaisent pas trop non plus. Moi, je sais que j'aime pas les trucs à la The Witch, les machins comme ça, quoi.
C'était bien.
Non. Et donc, ça devient de plus en plus rare de voir un vrai film d'horreur original, frontal, qui traite bien ses personnages, qui les traite sur la longueur. Et moi, j'ai eu ça en début d'année avec un petit film. Qui est sorti donc sur Netflix, mais il était sorti en salle en Angleterre où je crois que c'était un assez gros succès. C'est un film anglais de David Bruckner et qui s'appelait The Ritual. Alors je crois qu'en France il l'avait traduit par le rituel, il me semble, mais je suis pas sûr.
Il me semble aussi, oui. Ouais.
Alors moi je me suis mis ça un soir, mais totalement comme on fait des fois sur Netflix à l'aventure, quoi. Voyons le bidule, parce que le pitch est vraiment pas bandant, quoi. C'est un énième pitch de survival avec des citadins. Qui partent faire une randonnée dans une forêt, et puis il va se passer des sales trucs, quoi. Par contre, ce qui est bien, c'est que d'entrée, en fait, on nous décrit ces personnages-là. Ils sont joués par une troupe d'acteurs qui sont assez convaincants, mais en fait, c'est une troupe d'amis. Et dont leur amitié est tout de suite palpable à l'écran, quoi. Oui. Très chaleureuse. Et en fait, au cours d'une soirée en ville, il y en a un qui rentre dans un snack là, enfin, et où il y a une fusillade et il meurt. Et ces cinq amis, à la base, avaient prévu, dans les jours qui suivaient, ou le mois qui suivait, d'aller faire une randonnée dans la montagne, dans la forêt. Et les quatre amis restants vont décider d'honorer la mémoire de leur ami. En maintenant cette randonnée, ouais. Et ils vont y aller évidemment avec la douleur au cœur, quoi. Enfin, pas de gaieté de cœur, quoi, je voulais dire. Mais ils y vont, et donc au début c'est assez funèbre, et en fait peu à peu, alors je veux pas trop spoiler parce que c'est quand même un film assez original, je trouve, encore une fois dans la production actuelle, mais c'est pas du Blair Witch, quoi. C'est-à-dire Ils vont tomber sur des phénomènes sur, plus ou moins surnaturels, mais on va dire qu'on va rentrer peu à peu dans un fantastique de plein pied, avec une vraie mythologie visuelle et symbolique, quoi, qui est illustrée notamment par un moment par un très beau monstre. Quoi. Voilà. Et puis, au bout du compte, surtout, ça fait très peur. Il y a, il y a deux, trois scènes où moi, personnellement, sur la dernière décennie, là, il n'y a pas beaucoup de films d'horreur qui m'ont fait peur comme ça. Quoi. Donc, voilà, The Ritual, ça, ça a la particularité d'être une production d'Imaginarium, la boîte d'Andy Serkis. Voilà. Et donc, voilà, c'est parfaitement reconnaissable. C'est évidemment toujours disponible sur Netflix, donc vous pouvez le voir.
Et puisqu'on parle d'Andy Serkis, peut-être
puisqu'on
peut dire
parle
un mot
Netflix,
de Mowgli.
Et puisqu'on parle d'Andy Serkis, on va peut-être dire un petit mot. Je ne sais pas si nos camarades ont eu le temps de le voir. Ouais, Julien l'a vu. Parce qu'il est en ligne depuis vendredi
depuis,
seulement.
Oui, depuis quelques jours.
Et donc, alors, par où commencer Mowgli ? Mowgli, c'est un film à problème, évidemment.
Oui.
C'est un film qui a été tourné, il faut le savoir, il y a 3 ans déjà.
Oui.
Moi, je me rappelle, j'étais sur le tournage. Enfin, c'était même 3 ans et demi, parce que ça devait être début 2015. Et qui a été tourné alors à Londres, en studio et en Afrique du Sud. Et c'est un projet qui remonte encore plus loin, puisqu'il avait été initié, il me semble, à l'orée des années 2010, hein, je crois. Et le malheur de ce projet-là, ça a été de se retrouver en concurrence avec l'autre adaptation live, entre guillemets, quoi,
de
John Favreau pour Disney, Le Livre de la Jungle. Et à partir de là, tout est allé de mal en pis pour le film d'Andy Serkis, parce que le John Favreau est sorti avant eux. Donc Warner a décidé de décaler la sortie, et puis ensuite ils l'ont encore décalé et encore décalé, et jusqu'à encore là, je sais pas, à l'été de cette année, là, à l'été 2018, on n'avait plus trop de nouvelles du film. On pensait qu'il allait sortir là, à la fin de l'année, et puis boum, c'est tombé d'un coup. Netflix a annoncé qu'ils avaient repris le film et qu'il serait dispo. Là, voilà, il est sorti vendredi dernier. Et donc c'était le coup de couteau de trop, peut-être, parce que enfin c'est pas moi je c'est toujours pareil, quoi, c'est un film comme ça qui est assez spectaculaire, quoi, qui est assez
mérite une sortie en salle.
Voilà, il y a quand même du scope, quoi, dans le film, quoi. Ça méritait une sortie en salle, et c'est dommage de pas pouvoir le découvrir comme ça. Le problème, c'est que je pense que Warner a toujours eu du mal à croire ce film, parce que au-delà du problème avec Disney, qui a été un vrai problème, hein.
Oui, bien sûr.
Je pense que Warner, dans le contexte où est arrivé ce film, je crois que le film aussi, il a changé 3 fois de titre, quoi. Au début, ça s'appelait Jungle Book. Après, c'était Jungle Book Origins, ce qui est totalement incompréhensible, puisque c'est juste une adaptation du roman de Rudyard Kipling.
Ça n'a pas grand sens.
Et puis, à la fin, ça s'est appelé donc Mowgli, Legend of the Jungle, je crois. Voilà. Mais,
enfin, il appelait Greystoke Origins aussi, juste pour compliquer les choses.
Mais le truc, c'est que ce film, il est arrivé dans un contexte de bouleversement au cours des années 2010, quoi, à Hollywood. Et je pense qu'il en a clairement pâti. Moi, je me souviens que en discutant avec Steve Kloves, qui est le producteur du film et qui est le partenaire de l'un des partenaires de Serkis dans Imaginarium, Kloves, il me disait en fait que déjà à l'époque, en 2015, donc je veux dire le film, il est comme ça à l'arrivée, quoi. Il me disait, ça sera pas un film avec des grosses scènes spectaculaires. Ça sera un film axé sur ses personnages et sur ses comédiens, quoi. Et le film est comme ça, donc on peut pas vraiment l'accuser de l'avoir changé. Moi, je trouve qu'à la vision, pour tout dire, il y a un peu de retard au démarrage. Le début du film est pas très intéressant, il est assez mal rythmé. Ils introduisent certains personnages, je trouve, un peu trop tôt, tout ça. Bon, mais après, au fur et à mesure, le film prend sa vitesse de croisière et devient de plus en plus beau, surprenant pour un film comme ça qui à la base se destine à un public familial, on va dire. Mais ça, c'était aussi le parti pris de Andy Serkis et de ses compagnons dès le début du projet. C'était de retourner aux sources du texte de Rudyard Kipling et d'oublier totalement parce que la version de Disney, le dessin animé des années 70, et maintenant sans doute pour les générations à venir, le film de John Favreau, c'est ça qui a imprimé vraiment l'imaginaire collectif. Et là, il a voulu retourner donc au roman de Rudyard Kipling, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus même terrifiant à certains moments, beaucoup plus complexe aussi,
beaucoup plus violent. Oui.
Beaucoup plus violent, hein. Et voilà, ils avaient de vraies ambitions artistiques qu'on retrouve à l'écran, quoi, hein. Je sais que leurs références graphiques, c'était les premiers films de Disney, les gravures coloniales du 19e siècle, des choses comme ça, quoi. Et donc c'était un film voilà, qui s'incluait mal, qui est mal arrivé dans une mauvaise période où Hollywood avait décidé, bon ça on en a déjà discuté dans nos ciné pas mal de fois, mais a décidé de changer totalement de braquet, de tout recadrer vers les méga franchises, des trucs comme ça, et un film comme ça qui reste encore une fois, par rapport à d'autres blockbusters actuels, un petit film, entre guillemets.
Oui.
Comme je disais, axé sur ces personnages, c'est compliqué à imposer dans le paysage actuel du cinéma hollywoodien, et je pense que ça a été un problème aussi pour Warner, quoi. Ça a été un problème aussi. Il y a aussi quelque chose, je ne sais pas, peut-être Julien en parlera, qu'il en sait peut-être un petit peu plus, moi, qui m'a étonné, parce qu'à une époque, on a vu aussi, à l'époque où les dates étaient reculées, que c'était... que la Warner avait embauché Alfonso Cuarón comme conseiller visuel sur le film. Alors, c'est toujours pareil, peut-être il s'est occupé de 3D, quoi, mais évidemment, sur Netflix, on n'a pas vu en 3D. Oui, ça aussi, c'est dommage.
Après, c'est une 3D post-produite, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils sont crédités au générique de fin, les mecs ont fait la 3D, mais évidemment, on ne le voit pas en 3D. Quoi.
Ouais, ouais. Et donc, Cuarón, j'ai regardé le générique de fin, justement, jusqu'au bout, et je n'ai vu son nom.
Plus, ouais.
Je n'ai vu son nom nulle part. Donc, j'aimerais bien savoir ce qui reste de son travail dans ce film. Voilà. Que dire de plus, sinon bah, on va parler joué. Peut-être un petit peu du film. Quoi.
Faut dire aussi que c'est généralement bien joué. Enfin, parce que la grosse différence avec le film de Favreau, c'est que le film de Favreau, tu as un acteur live tourné devant fond bleu et incrusté après dans un univers intégralement numérique, oui. Et avec des animaux qui sont tous animés à la main. Par ordinateur, hein, mais animé à la main, c'est-à-dire par image clé, comme t'animes en dessin animé traditionnel, etc. Serkis, évidemment, lui, il avait un autre projet aussi dont on n'entend plus trop parler, qui est La Ferme des Animaux, aussi, une adaptation de La Ferme des Animaux. Ouais. Et Serkis, en grand défenseur en fait, des vertus de la performance capture. Réfléchir à ce projet-là en tant que vecteur des possibilités en fait de ce modus operandi en fait. Et les animaux sont interprétés en tout cas pour le visage, alors peut-être une partie du corps, ça je pense que ça a été beaucoup plus compliqué.
Oui parce que par exemple moi je sais que sur le tournage j'avais vu alors sur un combo ça j'ai pas assisté, mais j'avais vu la scène où en fait Shere Khan, qui est terrible cette scène là, où il
est joué par Benedict
Cumberbatch, quand il approche Mowgli dans la caverne des singes, et c'était Cumberbatch avec des prothèses pour faire les pattes du truc, un petit peu comme Cumberbatch avait fait pour jouer Smog.
Serkis l'avait fait pour jouer Kong aussi dans King Kong. Et c'est marrant parce que, alors en dehors du traitement, de la mise en scène, tout ça, qui sont très très différentes en fait du film de Favreau, t'as ce truc là en fait, t'as le fait que les animaux soient joués par des comédiens. Et moi, je sais que, par exemple, Christian Bale, qui n'est pas un acteur que j'aime toujours énormément, mais je le trouve formidable, en fait. Et tu le reconnais, c'est ça qui est toujours formidable et assez fascinant, en fait, dans la performance capture, c'est que tu le vois. Enfin, moi, je l'ai vu, et à tel point que je trouve que le film est très bien joué, encore une fois. Mais je trouve que Cate Blanchett, qui en fait des caisses, bah, elle en fait aussi des caisses. Et pour moi, ça a été plutôt un problème, en fait, dans le film. Mais rien que pour ça, je trouve que c'est un film à voir, quoi, en fait. C'est une expérience, en fait, que tu vois pas si souvent que ça, en fait.
Cate Blanchett, c'est marrant parce que donc elle joue Cal, le serpent.
Le serpent, ouais.
Et
au début, très beau rôle qui est superbe ce qu'ils ont fait avec Cal.
Et qui raconte le film au début en voix off, quoi. C'est elle qui narre le film. Et le début, ça fait vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans Le Seigneur des Anneaux, quoi, avec la voix off de Cate Blanchett. Mais ce que tu dis, moi, c'est je sais que les loups aussi, les loups sont superbes. Je crois que c'est Peter Mulan qui joue le chef de la meute de loups.
Il est génial. Hein.
C'est autre chose que la meute des loups du Favreau, quoi. Mais le Favreau qui était une splendeur visuelle, hein, because le chef op Bill Pope et puis le directeur des effets visuels.
Oui, je m'en souviens.
Rob Legato.
Rob Legato, putain, voilà, merci.
Qui ont fait un boulot de dingue dessus, quoi. Mmh. Mais alors, bon, le film qui racontait strictement rien, moi, je crois. Et là, c'est vrai que t'as les personnages des loups, on arrive vraiment à capter chaque personnage qui représente dans la meute les enjeux qu'ils ont. La scène où le chef des loups doit céder le pas en se battant, quoi. Mmh. Elle est superbe, cette scène, quoi.
Vraiment, Babou, qui est magnifique, hein. Sarkis, ouais, encore une fois.
On le voit pas assez, je trouve.
Qui fait une performance et qui campe un personnage qui est, là, tu t'arrives complètement à oublier Balou de Disney et tout. Enfin, oui. Moi, c'est, en tout cas, ça a été mon cas et qui est magnifique, moi, je trouve. Qu'il
est alors, ce qui est étonnant, moi, je trouve, avec la performance d'Arthur, je sais pas si tu as eu cette impression, mais en fait, quand tu vois le film, qui est très empreint, Rudyard Kipling oblige, hein, mais de culture indienne, de mystique indienne, on a vraiment l'impression de se retrouver. C'est-à-dire ces animaux à travers lesquels on voit les visages des humains, on a vraiment l'impression de se retrouver face à des divinités, quoi. Mm. C'est très frappant, moi. Il y a un côté comme ça irréel et il les sacralise aussi. Il est à l'écran. La première apparition du grand éléphant, là, elle est superbe aussi. Il y a vraiment. C'est vrai que moi. La première moitié du film, il y avait 2-3 scènes où je me disais, putain, c'est quand même un peu poussif et tout. Je me dis, bon, c'est vrai que c'est étonnant le truc de la quête blanchette au début, mais je me suis dit, bon, ben, on sent un peu, on voit qu'il a bossé sur le Seigneur des Anneaux, tout ça et tout. Et en fait, le film, il acquiert sa personnalité au fur et à mesure. Et plus on se rapproche de la fin, et plus il y a des scènes hallucinantes, quoi. Moi, je veux pas spoiler, quoi. Mais à un moment, il y a une scène, je pense que.
Mais tu vas le faire quand même.
Non. À un moment, il y a une scène qui se passe dans le noir, qui est la scène, et c'est peut-être sans doute la scène qui fait que on le conseillera pas à tous les petits enfants, quoi, mm-hmm. Mais une scène dans le noir avec en plus Mowgli qui vient d'assister à une cérémonie où il est recouvert de peinture rouge, il a une sorte de visage androgyne avec les cheveux attachés en chignon derrière, et le gamin est hallucinant, hein, comparé à Langive, mm-hmm, qui jouait dans le John Favreau. Le gamin a vraiment une présence à l'écran, quoi, magnétique, quoi. Et il progresse comme ça dans les ténèbres, dans le noir, et je dis pas comment se termine la scène, mais cette scène elle est très dure en plus, quoi. Et donc ça, c'est tout à leur honneur, je pense, d'avoir essayé de proposer un film à partir de ce matériau-là, un film comme ça, quoi. C'est assez étonnant.
C'est dommage qu'on ne le voit pas sur grand écran, mais au moins, ouais, vous pouvez le voir, c'est vous.
La musique n'est pas terrible, hein, par contre. Hein,
si vous êtes doté d'un abonnement
compositeur Netflix, de Evan Lissward, ouais, un jeu vidéo sur lequel on dit qui savait travailler.
Ça manquait d'un beau score. Hein,
je vous signale qu'au passage, on nous dit dans les commentaires que Arnaud Bordas est tellement cool avec sa barbe qu'il ressemble à un viking badass qui tranche des têtes et boit des litres de bière. Sachez que
c'est
pas juste un look.
Je me vois dans la glace. C'est la
vraie vie, il est vraiment comme ça. Le No Ciné Club continue, c'est désormais une tradition. Pour notre prochain sujet, on joue.
Show me what you got.
Et on va commencer par un petit quiz, comme le veut la tradition. Vous pouvez venir, les amis qui restent autour de la table, là, qui ne sont pas encore venus au micro. David Honora, Rafik Djoumi et Stéphane Moïsakis, vous pouvez venir pour jouer. Vous allez vous répartir autour des micros. Tu te mets à côté de mon micro.
Comme ça, je peux voir les réponses.
Non, il n'y a que les questions. Merde. Là. Il n'y a pas les réponses.
Tu veux t'asseoir sur mes genoux ?
Ah oui.
Non, je rigolais. Merde.
Ok, bon, très bien. Le temps qu'il s'installe, je vous explique.
Je vais mettre un peu de fesses sur ma chaise,
c'est tout. Taisez-vous.
Et il faut avoir un casque.
Donc, non, il n'y a pas besoin de casque. Je dis les questions.
Ah, pardon.
Voilà, c'est pas le blind test encore. Comme on va causer affiches de films dans un instant, je vous ai sorti de mes archives 5 superbes taglines de grands chefs-d'œuvre du 7e art. À vous de les retrouver, de retrouver le film qui est associé donc à cette tagline d'affiche, sachant que certaines évidemment sont des traductions assez approximatives. Et je précise que c'est une idée originale de David Honora. On peut mettre le petit sticker magnifique. Merci Jules.
Ça va pas m'aider.
À la technique. Vous êtes prêts pour la première? 50% homme, 50% machine,
50%
flic. Tout à fait. C'est Robocop.
Oh putain.
Herbert West à la tête sur les épaules.
Il se prend pour Dieu, mais Dieu a horreur de la concurrence.
Oui, bah, c'est moi qui fais les jeux.
Voilà. Formidable.
C'était de la
tagline. Je suis devenu chrétien.
Ça, merde.
Ok, donc c'est pas fini. La troisième. Ayez peur, ayez très peur.
La mouche.
Oui, c'est la mouche, tout à fait. Le combat d'un homme, pardon, je tape dans mon micro. Le combat d'un homme pour se la couler douce.
Macron et les gilets jaunes.
Non. Pas du tout.
Alexandre le bienheureux.
Non. C'est un film américain. Film de John Hughes.
La folle journée de Ferris Bueller.
Tout à fait. Tout à fait. C'est Ferris Bueller.
C'est un de mes films préférés, mais je me rappelle pas.
C'est A Man en anglais. C'est un Faisez-moi pas chier. Et la dernière, sa vie était entre ses mains. Maintenant, son petit doigt est dans une enveloppe. What? Eh ouais, c'est la vraie tagline de. Bah, un indice dans le titre, hein, sa vie était entre ses mains, maintenant son petit doigt est dans une enveloppe. C'est la vraie tagline du film.
Répète.
Sa vie était entre ses mains, maintenant son petit doigt est dans une enveloppe.
Un indien dans la ville.
Hein,
c'est américain.
C'est un film américain.
Attends.
Un doigt coupé dans une enveloppe.
C'est un orteil. Tout.
Ah, The Big Lebowski.
Tout à fait, c'est The Big Lebowski. Nom de Dieu, c'est la première fois que David Honora trouve une réponse à quoi que ce soit.
On peut l'applaudir.
Il fallait que j'ai
bravo, 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 bravo à tous. Bravo à tous. Tu peux en proposer une, vas-y, Rafik.
Je te propose une tagline.
Vas-y.
Pourquoi ?
Je sais pas.
Portée disparue numéro 2.
Ah ouais, effectivement. Effectivement, elle était un peu plus vacharne que moi.
J'avais aussi.
Il est là.
N'y allez pas, c'est une merde.
C'est les clés de bagnole de Laurent Baffy.
Il n'aurait pas dû le jeter à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse de vagues.
Il n'aurait pas dû le jeter à l'eau s'il ne voulait pas qu'il fasse de vagues.
Piégeant au trou.
Super. Ok, très bien. Bravo à tous. Merci Jules. Une petite polémique. Vous pouvez rester Arnaud, Jimmy et Rafik et David de ceux qui parlent des affiches de films. Les autres, barrez-vous. Une petite polémique un peu pourrie derrière laquelle se trouve un vrai sujet, c'est pas tous les jours. Tout est parti de Vincent Cassel, un peu chafouin lorsqu'il a découvert l'affiche l'affiche du prochain film où il tient le rôle principal, L'Empereur de Paris, affiche qui, il est vrai, est tellement banale qu'on a farouchement l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Il s'en est ému sur les réseaux sociaux avant de retirer son message, mais le mal est fait, on a eu envie d'en causer de ces affiches, car cette banalité, elle est en réalité complètement volontaire, n'est-ce pas, David Honora, qui répond aux interviews de la presse nationale sur ces questions.
Je sais. Volontaire, oui, je pense qu'il y a un truc...
En tout cas, elle fait partie d'une forme de stratégie marketing.
Il y a un truc, clairement, avec les affiches, sachant que tout est à modérer dans le sens où, en fait, en France, il y a quand même une grande diversité de typologies de distributeurs, avec à chaque fois des combinaisons de sorties qui peuvent être très variables, qui peuvent aller de quelques salles à plusieurs centaines, et que du coup les stratégies marketing sont accordées en fait en fonction du potentiel commercial des films. En France et à l'international, des codes graphiques se sont mis en place au fur et à mesure du temps. Il y en avait, mais même dans les années 50 et avant, qui se structuraient en fonction des genres et des typologies de films qui étaient mis en affiche. Et puis, il y a eu, disons, dans l'histoire de l'affiche, une révolution à un moment, qui est que ce qui était dans les mains d'artisans beaucoup travaillaient sur du dessin et sur, comment dire, un art de l'affiche assez spécifique et assez codifié, cet art-là est passé dans les mains de graphistes avec la montée en puissance des outils de PAO, Photoshop et compagnie, qui permettent
de faire des têtes flottantes.
qui permettent de faire
notamment.
Non, mais des trucs. Il y a notamment l'affiche du dernier film d'Oteniente, il s'appelle
All Inclusive,
qui vient de sortir. Avec, enfin, c'est vraiment
pas mis dans la liste
c'est un Photoshop disaster où on voit tout le casting du film qui est censé être les pieds dans l'eau, mais l'eau a été clairement rajoutée par un calque vraiment tout pourri. Et en fait, d'une certaine manière, on peut considérer que l'arrivée de Photoshop a nivelé par le bas l'art de l'affiche, et a fait que, y compris en fait dans les codes, dans ce qui permet d'identifier une comédie française, dans ce qui permet d'identifier une comédie romantique, dans ce qui permet d'identifier un film d'action américain, les codes, d'une certaine manière, ont aussi été nivelés par le bas d'un point de vue juste esthétique. Après, moi, ce que je pense, c'est que pour la mission du distributeur, c'est de faire en sorte que le film trouve son public. Et pour ça, l'affiche et la bande-annonce sont en gros les deux principaux axes qui permettent de communiquer au public ce que va être le film, pour faire en sorte que dès le jour de la sortie et dès la première semaine, ça soit potentiellement les bonnes personnes qui aillent voir le film. Et ça, en fait, c'est à double tranchant. C'est-à-dire que D'une part, il y a des codes qui existent et donc on sait que une affiche sur fond blanc avec une typo rouge, il y a de fortes chances pour que ça soit une comédie française. Si on utilise du rose, on va peut-être plus être sur une comédie romantique avec une histoire de mariage. Que s'il y a du bleu et du orange, on va être dans du cinéma d'action, etc. Et ces codes, consciemment ou inconsciemment, sont,
oui, c'est ce que j'allais dire,
sont intégrés
c'est,
par le c'est public.
C'est pas des codes conscients en fait. Oui.
Souvent, voilà, sans que ça soit forcément, et surtout il n'y a pas forcément de lien extrêmement logique, c'est juste que des films ont fait des succès avec ces codes et que du coup ils ont été intégrés.
Ouais, de la typiquement, même manière qu'on duplique les titres, les faux titres traduction française pour faire machin
exactement,
trip,
Very Bad Trip,
Very Bad Trip, American Trip,
Indiana Jones, Pretty Woman, quoi. pour les exemples que tu as cités en fait.
Oui, exactement, qui en plus ont mis en place des codes qui sont repris à nauséam.
Notamment Pretty Woman.
Voilà, sur la comédie romantique, le rose, le côté, même le fait d'être dos à dos, etc., voilà. Ça a été décliné de plein de manières. Sur les comédies françaises, sur le rouge et le fond blanc, ça n'a pas toujours été le cas. D'ailleurs, quand on regarde des comédies françaises des années 80 et avant, c'était pas ces codes graphiques. Et en fait, depuis, je pense que le Dîner de cons a été une affiche un peu tournant là-dessus, à instaurer des codes. Et ensuite, il y a un truc avec l'affiche, c'est que en fonction de la force de frappe du distributeur, c'est aussi ça qui permet parfois de prendre des risques. C'est-à-dire que créer une affiche originale, si on a les moyens de... Ah, on va peut-être devoir évacuer le studio, non ?
Je ne sais pas. Je crois que Jimmy Batista
a fait une connerie.
Déclenché l'alarme.
Ce sont les aléas du direct.
Ce sont les aléas du direct. Il a voulu sortir discrètement pour
non, mais je crois que Juliette va pouvoir désactiver l'alarme.
Je crois que Juliette est partie désactiver. On va attendre une seconde que ça s'arrête.
Même si on est en direct.
Même si on est en direct, on peut continuer à parler, mais ça va...
Ça donnera un sentiment d'urgence.
Ça donnera un sentiment d'urgence à ce sujet pressant. Ce qui était notamment le but de l'évacuation de Jimmy Batista, c'était un problème pressant.
C'est dommage parce qu'il aurait pu meubler avec des blagues là pendant le
temps. On n'utilise pas assez d'alarmes d'évacuation en podcast.
C'est vrai que c'est rare.
C'est un truc.
C'est un truc rare.
Je vois que Jules
est atterré.
Pousse les sourcils.
C'est pas un effet. C'est pas toi qui l'envoie depuis la console. Ok, très bien. Tu disais, David.
Bah, je reprends vraiment.
Je sais pas. Je sais pas combien de temps ça va durer. Alors, c'est tout cassé? C'est un drame. C'est une catastrophe.
On nous dit qu'on nous entend, on nous entend malgré tout.
On nous entend malgré tout. Bah, continue, David.
On va reprendre. Et donc oui, je voulais juste terminer là-dessus. C'était que avant de rentrer dans le débat, c'est que en fait, avec une très grosse force de frappe, oui. C'est aussi ça qui peut permettre de faire des choses originales, parce que pour proposer des nouveaux codes visuels ou des codes originaux, il faut aussi avoir la faculté de faire en sorte que l'affiche elle soit vue partout.
Oui.
Et j'ai des exemples. J'en ai pas 56 en tête, mais par exemple, l'affiche de The Social Network proposait une composition assez originale.
Assez originale, ouais.
Et elle était aussi soutenue par une très large diffusion.
Par une diffusion, ouais. Et du coup, par une, on va dire, une reprise du code de l'image, d'ailleurs, qui a fait école, parce que maintenant, on le revoit.
Alors assez, voilà, donc après, c'est le dire, c'est qu'en fait, une affiche originale qui donne un film, qui accompagne un film à succès, derrière, va être détournée et reprise et créer un essaim de d'affiches moches qui en fait singe simplement l'affiche de départ.
Ce qui n'a rien de nouveau en fait.
Oui, bien sûr. Et ça, c'est un truc, y compris sur les titres. D'ailleurs, on parle des Very Bad Trip, mais Il était une fois quelque chose, et Y a-t-il un flic pour sauver la reine et compagnie, qui n'ont aucun rapport avec le titre original, sont aussi des déclinaisons
de
succès.
Trafic.
Oui, non, mais effectivement, cette idée comme quoi les affiches en général devraient être des productions originales, elle est un peu curieuse, comme si on attendait que l'affiche soit en elle-même une œuvre d'art, en fait.
Ce qui a été le cas sur certains films, quelque part.
Qui n'a jamais été une norme.
Constante.
Tu reprends... Moi, je sais que à l'époque où je me faisais chier à faire beaucoup de jaquettes vidéo pour ma collection, sur les films des années 30 et 40, la moitié du temps, je me disais, merde, c'était ça l'affiche de l'époque. Une espèce de James Stewart mal dessiné à la
fois que je te pousse. L'alarme repart. Continuez. Chaque fois que Jimmy Pettis a fait quelque chose, l'alarme repart. Ça s'était arrêté, c'est reparti. Bref.
Donc il y a eu des périodes, semble-t-il, où il y a eu une espèce d'emballement comme graphique, et notamment dans l'excès, dans le trop-plein. Je pense que c'est plutôt dans les années 60 que James Bond a lancé cette mode. Oui. Ce que j'appelle l'affiche explosive, c'est-à-dire vraiment la construction en explosion, oui. Avec en gros le personnage au milieu et 10 milliards de scènes d'action dans tous les coins. Oui. On en a eu pendant 10 ans, des comme ça. Alors c'était marrant parce que, surtout quand t'es gamin, de pouvoir regarder les détails et tout ça, ça fait un petit film en soi. Mais il n'y avait rien d'original là-dedans, et à moitié du temps, ça ne vendait pas le film non plus. Tous les films Rital pourris des années 80, les sous-Conan qui étaient vendus avec des affiches absolument magnifique, de couvrir un film qui avait rien à voir non plus. Enfin, il y a aucune logique, si ce n'est effectivement, comme l'a précisé David, l'idée d'attirer le chaland et de le faire rentrer. Et en plus, il ne faut pas sous-estimer l'impact qu'a eu la vidéo là-dessus, parce que avec les au départ, le réflexe sur les jaquettes vidéo était de reprendre l'affiche sale, et très vite, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas tant que ça, parce qu'elles avaient été conçues pour être vues
de manière très large,
format, et que dans la concurrence incroyable que faisait l'étalage de jaquettes dans le vidéoclub, il fallait vraiment se détacher immédiatement, quoi. Et c'est là où on a commencé à avoir le demi-portrait, la gueule à moitié du comédien, parce que ça tient bien sur la hauteur de la jaquette, et ça s'est ensuite répercuté sur les affiches de films. Donc on arrive au début des années 90 avec les Schwarzenegger, où en gros il y en a eu une série comme ça avec juste sa gueule. Le DVD a aussi imposé ses propres normes et tout, dont le photoshopage graveleux et gravos. Enfin, c'est pas un phénomène nouveau, et deux, faut pas non plus sublimer un passé hypothétique sous prétexte que les seules affiches dont on se souvient aujourd'hui du passé étaient précisément celles qui étaient hyper travaillées, etc. Quoi. Voilà, il n'y a pas eu que du Drostruzan dans les 80s. Pardon. J'étais pas forcément un fan non plus de l'époque mystérieuse, enfin de l'affiche qui intrigue, notamment le cinéma européen a beaucoup usé de ça dans les années 60-70, où t'avais une espèce de pomme avec deux pieds et puis un titre étrange, tu vois. Voilà, en fait, c'était le nouveau Buñuel, il fallait juste
qu'on décrive le truc.
La Pologne s'est fait un nom sur Internet, parce que les gens découvrent aujourd'hui toutes les affiches polonaises pour des films comme Blade Runner, Star Wars et autres, en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de malade. Il y a eu une exception culturelle qui a fait que là-bas, un film se vendait sous cet angle-là, mais ça reste encore une fois un truc de marchand de fête foraine, quoi. Marketing au sens de marquer, au sens de immédiatement interpeller le
fort.
Ce qui compte, c'est pas que le passant apprécie l'affiche. Ce qui compte, c'est qu'il retienne le titre et qu'il sache que ça sorte, c'est tout.
Ouais. Et qu'il ait envie, du coup, potentiellement, d'aller le voir. Arnaud, toi, tu notais que ça.
Moi, je suis pas d'accord.
Tu es pas d'accord avec ça.
Avec mes camarades.
D'accord.
Je propose un duel, parce que moi on vient de me qualifier de pirate là sur le chat. Donc
c'est vrai qu'il y en a un viking, un pirate et deux rouquins. Je sais pas, ça commence.
J'ai des diadjoumi.
Un viking pirate.
Tu n'es pas d'accord, d'accord.
Non, mais non, voilà, okay, c'est tout.
Super. tu avais noté, me semble-t-il, dans nos conversations extérieures à ce micro, que ça avait par contre se développé tout un marché parallèle des affiches.
Voilà, bon, mais d'abord, je vais quand même leur répondre.
Réponds. Bon, je t'en prie. Tu peux présenter l'émission à ma place si tu veux, il n'y a pas de souci.
Bah, pourquoi pas.
Ok, d'accord.
Bon, donc le truc, c'est. on est d'accord de toute manière sur le fait que oui, l'affiche c'est quelque chose qui est fait pour vendre à la base, effectivement. Le problème, moi, que j'ai à l'heure actuelle, et je sais que ça a été relevé par beaucoup de gens justement qui sont très grands collectionneurs d'affiches. Je pense notamment à Franck Darabont qui avait signé une très belle préface à il y a quelques années sur un ouvrage consacré à Drew Struzan, c'est Raph l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais c'est le grand affichiste des années 80, celui qui a créé les affiches de Retour vers le futur, les affiches des reprises de Star Wars, certaines affiches d'Indiana Jones, enfin voilà, il a créé des visuels qui ont quand même les Goonies aussi, l'affiche des Goonies c'est lui, il a créé des visuels qui ont marqué plusieurs générations.
Parfait. C'est du dessin photoréaliste avec des sortes de grappes, enfin je sais pas comment décrire ça.
T'as des compositions en rosace souvent, avec qui ont été beaucoup repompées aussi, notamment à l'époque actuelle avec toutes les merdes à la Stranger Things ou à la Super 8 là, qui essaient de rendre hommage, et donc où ils font des affiches à la Drew Struzan mais qui n'ont pas un quart de poil du sens de la composition de Struzan. Mais bon, bref, donc il y avait ce bouquin sur Struzan. Darabont en avait fait la préface et il avait dit voilà, alors moi je suis quelqu'un de très branché sur la technologie, il expliquait tout ce qu'il avait chez lui, pour pas passer pour un vieux con en gros, qu'il était au top de la technologie sur son équipement informatique, audiovisuel, hi-fi, tout quoi, et il dit mais par contre les affiches c'est pas possible, c'est la merde totale à l'heure actuelle quoi. Et alors bon bah justement il clouait au pilori le Photoshop et tout ce que ça avait amené, que les affiches maintenant étaient faites par des graphistes qui n'avaient pas de base artistique quoi, de formation artistique, et donc ils faisaient n'importe quoi. Bah,
qui ne demandait pas forcément ça d'ailleurs.
Voilà, on a toutes ces têtes flottantes là maintenant partout. Je me rappelle une affiche d'E.T. Du Tintin de Spielberg qui était abominable avec des têtes flottantes dans le ciel là, comme ça. Quoi. Bref, et il disait oui, il y a un vrai problème parce que on ne vend plus les. Alors voilà, c'est toujours une histoire de vente effectivement, mais on ne vend plus les films de la même manière. Le truc c'est que on va dire jusqu'à à peu près jusqu'à à peu près aux années 90 quoi, peut-être non inclus, on vendait les films, on avait des créatifs quoi, des publicistes souvent, mais des gens qui étaient vraiment très talentueux, qui avaient un sacré parcours derrière eux et qui envisageaient toute la communication autour d'un film de manière à créer la surprise chez les gens qui passaient devant l'affiche, regardaient la pub à la télé, la bande-annonce ou des trucs comme ça. Moi, je sais qu'un des génies de cette époque-là, une fois j'avais fait un papier sur lui, il a une carrière fascinante, c'est Stephen O. Frankfort. C'est lui notamment... alors, c'était un gars, c'était un publiciste. En gros, ce que raconte la série Mad Men, il a vécu ça à New York à cette époque-là. Voilà, il a vécu toute cette histoire. Et ce gars-là, après, il s'est spécialisé dans les films. Et bon, on lui doit... le monde entier connaît ses taglines parce que c'était un package quoi. Il y avait une affiche avec un visuel, il préparait la bande-annonce, il préparait tout toute la communication autour du film. Et donc je disais, on lui doit le dans l'espace, personne ne vous entend pas crier de Alien. Ouais. Vous croirez qu'un homme peut voler d'un Superman. Enfin, je ne sais plus si c'était traduit en français, mais c'était You'll Believe a Man Can Fly de Superman. On lui doit. Bon, le film a été un échec, mais on lui doit aussi toute la communication autour du The Thing de John Carpenter. Le Rosemary's Baby de Polanski, c'est lui, cette affiche, c'est lui qui a eu cette idée, qui est allé dans Central Park filmer un rocher où il a rajouté le landau du bébé et le visage de Mia Farrow dessus. Une affiche aussi qui a été beaucoup repompée aussi par la suite, d'ailleurs.
Aussi.
Mais voilà, mais le truc, quand je parle de ce mec-là, c'est qu'il y avait en fait à cette époque-là, et je précise aussi, Stephen Frankfort, il avait aussi réalisé un générique de toute beauté dans les années 60 qui était le générique de Silence et des Ombres, To Kill a Mockingbird, qui avait été salué dans le monde entier, générique, et qui a été beaucoup repris aussi par la suite. Et par exemple, le titre aussi d'Alien, je pense que le titre d'Alien au début du film qui se dévoile bâton par bâton, c'est lui aussi. Enfin, c'était un type, il faut se pencher sur sa vie, enfin, aller voir des articles sur lui sur Internet. C'était véritablement un génie. Et ce gars-là, et à cette époque-là, il n'était pas le seul. Il y avait beaucoup de gens qui approchaient la communication, la manière de vendre des films sous cet angle-là. C'est qu'il fallait surprendre. la personne, vraiment lui proposer quelque chose qu'il a, voilà, des phrases qu'il va retenir, des visuels qui vont marquer sa rétine. Le problème à l'heure actuelle dans l'industrie actuelle, quoi, dans les années 2010, là,
on conforte.
Voilà, c'est l'exact inverse, quoi. Oui, c'est-à-dire, on donne.
T'as parlé de surprendre, mais à une époque où le public n'est pas bombardé d'informations visuelles comme il l'est aujourd'hui.
Ouais, mais peut-être.
Ces affiches, effectivement magnifiques que tu notes, elles apparaissent dans une rue où déjà les gens n'ont pas de mobile, n'ont pas le nez plongé dedans, sont pas en train de faire défiler 500 000 photos sur Instagram.
Mais d'accord, évidemment, on a changé d'époque et de l'encadrement n'est plus du tout le même.
De sursollicitation, en fait.
Évidemment, mais à chaque époque et à chaque redéfinition de notre environnement, il y a des gens qui ont essayé de penser ça avec brio et de proposer des belles choses. Ouais. Je parlais de ce mec-là, Frankfurt ou d'autres publicistes de son époque, ou les grands affichistes, ouais, comme Struzan ou Bill Gold aussi. Bill Gold, c'est le mec qui a fait l'affiche de L'Exorciste, de José Wales hors la loi, de Ringuin pour vos yeux, avec les jambes de la nana, et Roger Moore au milieu, qui a été décliné, je sais pas. Ces gens-là, à l'époque où ils sont arrivés sur le marché des affiches, et de la pub et du marketing pour les films, il n'y avait pas l'équivalent, quoi. Ils ont essayé aussi de s'adapter à leur époque. Il y avait la télé qui arrivait, il y avait la radio qui arrivait. Enfin, la radio, elle était déjà arrivée précédemment, mais ça commençait à exploser avec la radio libre, tout ça. Et tous ces gens-là, ils se sont adaptés à leur époque, ils ont proposé des nouveaux trucs. Le problème, moi, je trouve qu'à l'heure actuelle, on ne propose plus rien de nouveau. C'est du nivellement par le bas total, quoi. Moi, j'attends qu'avec les modes de communication qu'il y a à l'heure actuelle, les moyens qu'il y a, j'attends qu'on ait quelqu'un du niveau de Andrew Struzan ou un truc comme ça, on les voit pas venir. Au contraire, on reproduit ce qu'ils ont fait, ces gens-là, quoi.
En fait, il y a quelque chose aussi qui vient et qui est nouveau. Enfin, moi, je vais aussi dans le sens de Rafik sur le côté, le fait que la prolifération des images rend, en tout cas, change la donne sur la capacité à surprendre les gens. Et en fait, il y a une autre tendance qui est que les affiches, en fait, de fait, ont tendance à se dématérialiser. Et il y a notamment ce que fait Netflix au final, c'est que le visuel, les vignettes des films avec le titre, de plus en plus, vont en fait proposer des dizaines, voire des centaines de visuels différents pour s'adapter en fonction de l'algorithme aux personnes. Ouais. Et en fait, la tendance a priori de l'affiche, ça va être que chacun va avoir l'affiche qui va être le plus adaptée à l'attirer en salle. L'affiche qu'il mérite, voilà. Donc en fait, il faut avoir de beaux yeux pour attirer de belles affiches. T'en auras des belles à ce moment-là.
Après, c'est pas vraiment des affiches. Hein.
Non, mais après, ça, c'est sûr que c'est des déclinaisons, etc. Et après,
c'est semblable au menu du DVD ou du Blu-ray.
C'est vrai. Mais après, il y a un autre aspect sur lequel je crois Thomas voulait nous amener tout à l'heure.
Tout à fait. J'ai tenté ma chance.
C'est le fait que parallèlement à la production des affiches officielles, il y a pas mal de graphistes aujourd'hui qui s'amusent à travailler justement tout l'imaginaire autour des films pour proposer des affiches alternatives, parfois qui sont même entre guillemets retenues par le studio et utilisées dans la communication sans être réellement l'affiche officielle. Oui. Et c'est ça qui pose question. En fait, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire, quand on voit une affiche alternative hyper élégante, hyper belle, hyper originale, on se demande mais pourquoi ils ne l'utilisent pas comme l'affiche principale. Et je pense que derrière, il y a des tentatives ou des panels marketing qui font dire que ça ne fonctionne pas sur la diffusion large.
Là aussi, il faut moduler quand même, parce que moi, je me rappelle, j'avais eu cette discussion il y a 2 ans à peu près, je crois, avec Laurent Durieux, qui est un des grands représentants de cette vague-là, quelqu'un qui a un talent dingue, qui fait beaucoup d'affiches de films classiques. Il a revisité Hitchcock récemment. Il a fait une affiche d'Apocalypse Now magnifique avec Martin Sheen quand il sort de l'eau là, et dans le reflet, c'est Brando. Enfin voilà, il fait vraiment de.
Une affiche de Jaws aussi hyper originale. Donc il utilise le parasol pour faire la nageoire du requin.
Et donc Spielberg, l'affiche qu'il a pas fait connaître, mais qui a contribué largement à sa popularité.
Parce que Spielberg lui en a commandé 45 exemplaires. Et donc, une fois, en fait, c'était il y a 2-3 ans au moins. J'en avais parlé avec lui sur les réseaux sociaux. Et donc, de cette crise des affiches, et puis qu'est-ce que c'était que ce marché des affiches parallèles. Et parce que je lui disais, c'est un truc qui est proposé dans les galeries virtuelles, souvent sur Internet, à l'achat. Moi, je le sais, hein, j'en prends, je connais très bien ce système-là. Et on peut se dire que c'est quelque chose de pour Happy Few, que c'est un truc de niche totale, ce qui est vrai aussi dans l'absolu quand même. Et donc, je lui parlais de ça et je lui disais, qu'est-ce que ça pèse en gros, quoi, face effectivement à tout ce que tu viens de dire là, David, Netflix, machin et tout. Et lui me disait, bah écoute, détrompe-toi, mais lui, puisqu'il était au cœur de ça justement, c'est un Belge, mais il travaille beaucoup avec Hollywood. Et il me disait, détrompe-toi, là, à l'heure actuelle, il me disait, j'ai l'impression que ça change de plus en plus, parce que je suis de plus en plus contacté par un studio. Ouais.
Pour faire, tu veux dire, des affiches officielles.
Voilà, il m'avait même dit qu'il avait refusé un des Star Wars de la nouvelle trilogie, quoi, hein, parce qu'apparemment, il n'avait pas trop envie de faire ça. C'est quelqu'un qui fonctionne pas mal au coup de cœur. Ouais. Et donc, il m'avait dit, tu vas voir et tout. Et effectivement, dans les 2-3 années qui ont suivi, c'est plutôt récent, quoi. Ça commence, là, depuis cette année à peu près, quoi, depuis un an. Il y a des affiches qui arrivent, qui sont prises par le studio. L'affiche j'ai oublié le peintre qui l'a faite là. L'affiche de La forme de l'eau de Guillermo del Toro. Mmh. Alors, il y a une affiche finale qui était.
Il y a plusieurs affiches.
Ouais, il y a une affiche finale qui était différente, mais l'affiche teaser est exploitée. Elle était dans les salles, des trucs comme ça. Et c'était une affiche magnifique qui est designée par del Toro en plus à la base. Enfin, il a fait un crowbar comme ça et le peintre après l'a faite, quoi. Il y a eu aussi, je me souviens, alors moi je ne suis pas fanat du style du mec, mais c'est une affiche clairement qui est dans cette catégorie là et qui est faite par un de ces artistes-là, l'affiche du dernier Aronofsky là, avec Jennifer Lawrence, c'était Mozart, c'est ça ?
Oui.
Voilà. Et on en voit, il y en a d'autres dans les tuyaux qui arrivent, on en voit de plus en plus comme ça arriver. Donc, il y a peu.
L'affiche du Aronofsky qui reprenait des lettrages d'affiches déjà passées.
C'était des lettrages gothiques.
C'était.
Mais moi, je parle de l'illustration, là, vraiment. Hein.
Non, zut, c'était un film français, en fait. Ils avaient repris ça du film de Lucie Lavoie.
Innocence. Ouais. Mais oui, c'est la police du titre qui est comme ça. Mais je ne sais pas si c'est l'affiche d'Innocence qui l'a inventée. Hein. Mais je parlais d'illustration parce qu'elle fait vraiment. Moi, encore une fois, j'aime pas trop cette affiche, mais ça fait vraiment peinture, hein, l'affiche de Moser, hein, vraiment, quoi.
Non, parce qu'on parle créativité, originalité, etc. Et puis tout d'un coup, tu nous balances Aronofsky. Donc je me suis réveillé à ce moment-là.
Non, mais je parle des affiches, là. De toute façon, je parle pas des films. Hein. Donc le truc, voilà, c'est que. Alors je ne sais pas si ça va perdurer, je ne sais pas si les studios en vont en retirer quelque chose, mais ce qui est clair, c'est que tu as ce véritable marché maintenant sur Internet, ces gens-là. Les affiches, quand elles sont vendues, surtout, il y en a de plus en plus des sites. Oui. Au départ, c'est la galerie Mondo qui a lancé ça, là, qui est basée à Austin, au Texas. Mais maintenant, il y en a partout. Ils commissionnent comme ça des artistes. Ils vendent leurs affiches sur Internet. En général, elles sont souvent sold out très vite. Ça part comme des petits pains. Donc, il y a une clientèle pour ça. C'est une manière de retrouver une sorte de fétichisme qui a trait au cinéma que les moyens modernes, peut-être, comme ce que tu disais avec Netflix et compagnie, ne nous offrent peut-être
plus. La dématérialisation entraîne.
Je propose de conclure là-dessus.
Oui, proposez donc.
C'est que en fait je me demande s'il y a pas un risque par rapport au code graphique dont je parlais au début du sujet qui ferait que les belles affiches finissent par si la tendance fait que de moins en moins de films populaires se soucient des qualités esthétiques de l'affiche, qu'on finisse par associer les qualités graphiques avec films chiants, quoi. Et que les films originaux et audacieux deviennent l'apanage. Les affiches originales deviennent l'apanage des films d'auteur.
Et pour répondre en 3 secondes.
Et je pense que c'est pas le cas.
Fini d'abord.
Non, mais parce que le ok, alors, mais le truc c'est que t'as des affiches.
3, c'est fini.
C'est pas une question d'avoir une qualité artistique. Enfin là, tu sous-tends artistique, chiant, tu vois, des trucs comme ça ou trop complexe, machin. C'est d'arriver à créer des images qui impactent les gens immédiatement, quoi, tu vois. Je veux dire, l'autre jour, là, j'ai posté sur Facebook l'affiche originale de Spartacus, mais c'est non seulement une splendeur, mais en plus, elle est terrible, cette affiche. Tu passes devant, tu ne peux pas voir autre chose qu'il y a autour, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est un truc de pubard, ça aussi, tu vois. Mais c'est arrivé à créer des images qui t'impriment la rétine durablement. Et ça, on ne le fait plus à l'heure actuelle dans les affiches du cinéma. Enfin, on le fait quasiment.
Rares exceptions. Ouais.
Très bien. Merci, monsieur. C'était superbe. malgré les aléas du direct et donc cette petite sonnerie.
On ne rembourse pas les acouphènes et tout.
On ne rembourse pas les acouphènes, malheureusement.
Bon, Jimmy, tu ne sors plus maintenant.
Mais Jimmy, par contre, on ne pourra plus sortir. On dort tous là. Super. Avant notre prochain sujet et puis avant la pyjama partie du Nociné Club, puisque c'est le programme, évidemment, encore un petit jeu.
C'est dans Sergeant Pepper. C'est... Tu vas la fermer, oui ou merde, on parle de Lénine Vladimir Ilitch Ulyanov.
Et donc ce sera comme d'habitude un jeu musical. Stéphane et Julien, vous voulez pas nous rejoindre, partager une oreillette avec l'un de vos petits camarades pour entendre la musique qu'on va passer, parce que donc c'est un blind test.
J'ouvre mon oreille.
Ouvre ton oreille, partage ton oreille avec tes petits camarades. Sachez, chers amis qui nous écoutez et qui nous regardez, arrête de crier. Sachez, chers amis qui nous écoutez et nous regardez, que nous apprêtons durant les vacances de Noël à vous dévoiler une trilogie d'émissions spéciales consacrées au western. Et donc pour fêter ça dignement, je vous ai préparé un blind test 100% Ennio Morricone. Voilà.
Oh
et oui. Et donc comme d'hab, le premier qui trouve à gagner. Donc il faut me citer évidemment le titre du film, évidemment. Jules, vous êtes prêt? Magnifique. Premier extrait.
Ecstasy
of Gold, tout à fait. Passer au deuxième.
On n'en avait personne.
Bien. Wow. Le troisième.
Il était une fois dans l'Ouest.
Non, dans l'Ouest.
Ah non, dans l'Ouest, merde. Oui, c'est le thème de Jill. Putain.
Quatrième.
La révolution.
Non,
en Amérique.
Non,
non, non.
Un pistolet pour Ringo. Gun for Ringo.
Il aurait mieux valu mettre le retour de Ringo, elle est 100 fois mieux la musique du retour de Ringo.
Oui, bah écoutez, non, c'est moi qui choisis. Hein.
Comment ?
Ne soyez pas de mauvaise voix, de Bordas. Allez, le dernier.
Pour quelques dollars de plus.
Tout à fait. Pour quelques dollars de plus. Pas la poignée de dollars. Pour quelques dollars de plus. Bravo.
Super.
Bravo. Vous étiez tous magnifiques.
Même famille, compagnie rose.
Ouais, salut. Hein.
Non, mais je sais, mais vous m'emmerdez à critiquer mes choix en permanence. Merci.
Moi, c'était très bien, Thomas, je trouve.
Merci, bien. Arnaud. Merci de ton soutien. Tu peux partir, hein, Stéphane, c'est bon. qu'est-ce que le CNC traficote avec le genre? Le terme est un peu galvaudé, mais c'est bien de ça qu'il s'agit. Visiblement, la vénérable institution, on a déjà eu l'occasion d'en parler, vénérable institution qui nous a habitués à débiter à la chaîne des films d'auteur où les gens vont acheter le pain, a décidé de corser un peu le jeu en mettant des sous dans des styles jusque-là méprisés. Alors après les films d'horreur et les polars à la française dont on avait causé en début d'année, voilà que le CNC se met en chasse de comédie musicale. Jimmy Battista revient à table, ça me fait très peur. De comédie musicale en lançant un grand appel à projets pour financer des projets donc signés par des jeunes créateurs. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça, les amis? Rien. Un grand silence frisé s'ensuit.
Non, bah, moi,
bah, David, allez, vas-y, hein, David, lance-toi.
Non, mais alors, en fait, il y a plusieurs choses. Donc, déjà, il oui. y avait la commission cinéma de genre qui a été lancée, je ne sais plus quelle date exactement.
En mars.
Voilà, donc il y a.
Il y avait eu des ateliers d'écriture qui avaient été faits l'année précédente.
Avec Sofilm en amont.
Ils ont écrit au moins dans ces ateliers?
Officiellement, en tout cas.
A priori, oui. Et justement, c'est la question des ateliers. En tout cas, ça me pose problème d'inclure ça sous la forme d'une commission CNC pour différentes raisons. Alors, juste pour présenter, pour donner une idée du coup de la commission, elle est présidée par Julia Ducournau, donc la réalisatrice de Grave.
Oui.
C'est peut-être le membre le plus crédible de toute la bande.
C'est quand même Quentin Dupieux, le vice-président.
Ouais. On peut noter qu'ils viennent tous d'un... comment dire, d'un certain monde du cinéma. Et il y a une ambiguïté latente dans ce qu'on appelle le cinéma de genre, en fait. Oui. C'est-à-dire que ce soit du Cournot, que ce soit du Pieux, que ce soit un site comme Chaos Reign, ce sont des gens qui se sont placés dans un cinéma contestataire, subversif, qui va dans les limites, chercher un petit peu dans les coins, dans les limites, etc. quoi. Et donc, à mes yeux, assimilé à un cinéma à petit budget, à petite fréquentation, avec le label Art et Essai quand même bien, bien placé là dans ta gueule. Quoi.
Mais à grosse couverture médiatique.
Et or, beaucoup de gens qui ont employé le terme cinéma de genre depuis des années, voire des décennies, le faisaient pour désigner du cinéma populaire. Ou du cinéma d'exploitation. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas du tout encore dans la tête du système français quand on emploie le terme cinéma de genre. Quoi. C'est Fast and Furious, cinéma de genre. Enfin, c'est Harry Potter.
On avait fait une émission où on parle un peu du pseudo-retour du cinéma de genre. Ouais. C'est-à-dire, en gros, de la respectabilité récente. Et c'est vrai que c'est un truc, c'est quand même pour moi, c'est le truc primordial. C'est le cinéma populaire, c'est le cinéma qu'on allait voir quand on était gosse, sur lequel il n'y a pas vraiment besoin de connaître l'histoire ou quoi. C'est... Après, bon, de là viennent des vocations, la preuve, mais ce que je veux dire, c'est que il manque vraiment ce truc-là. Quoi. Aujourd'hui, en fait, on vend ça. On a l'impression que tous ces gens-là, on découvre, même déjà le nom, que cinéma de genre, c'est assez abominable en soi. mais c'est surtout qu'on a l'impression que tous ces gens-là ont découvert tout ce pan-là du cinéma récemment, en fait. Quoi. Mmh. Et que c'est devenu respectable récemment. C'est-à-dire qu'on a.
Il y a rien de pire que les convertis récents, tu sais. Hein.
Et je sais très bien, quoi. Mais c'est surtout c'est que ça donne un côté. C'est-à-dire que de la même manière que. Il y a quelques années, quand on allait chez des gens et que tu voyais qu'il avait tous les ozous, tous les machins, enfin, on sentait qu'il y avait des espèces de cinématographies un peu imposées, mais genre nécessaires, quoi. Enfin, un peu comme les gens qui ont dans leur bibliothèque tous les classiques, mais qui finalement qui n'ont pas vraiment lu, quoi. Ouais. Et finalement, certains trucs de cinéma de genre sont en train de rentrer dans cette espèce de magma-là, quoi. Alors qu'avant, c'était ce qui était marrant, c'était justement d'avoir des goûts finalement, ça montrait justement des goûts très éclatés et assez uniques en fait finalement.
Et justement ce que pose question le fait de constituer des commissions spécifiques au cinéma de genre et en fait même en ciblant par exemple un genre comme la comédie musicale et créer aussi une commission spécifique pour ce type de production, moi ça me pose un problème parce qu'en fait quand on constitue simplement des ateliers d'écriture qui vont permettre de faire des échanges d'expériences, de rassembler des gens, éventuellement de faire se rencontrer des scénaristes avec des réalisateurs, avec des acteurs, etc. Ça, je trouve ça très pertinent et intéressant et une manière d'insuffler du dynamisme dans des typologies de cinéma qui peut-être en France sont en retrait. Le problème de décaler ça, d'intégrer ça dans des commissions du CNC, il y a deux biais. C'est un, d'une part, ça sous-entend que du coup les commissions classiques du CNC ne sont pas vouées à financer le cinéma de genre. Et deux, ça crée dans un pays où il est assez difficile justement de produire ce type de film avec justement une vision de marché. Comment En gros, si on a un projet de cinéma de genre aujourd'hui et qu'il est refusé par la commission de Julia Ducournau, ça veut dire que du coup, est-ce que les producteurs vont prendre le risque de produire en France des films de genre qui ne sont pas labellisés comme le film de genre français tel que le CNC est capable de l'adouber. Et moi, c'est ça, c'est que j'ai peur que ça ait un effet pervers et négatif, au contraire, sur la production de genre et sur un risque qui, à moins d'avoir des producteurs extrêmement courageux et capables de prendre les risques nécessaires, finalement, de refroidir tout le monde.
Oui, c'est... Rafik. Mais c'est ça, on a eu cette année un film qui, hélas, n'a pas marché. Je crois que vous en aviez parlé ici à Nos Ciné, qui était Dans la brume.
Tout à fait.
Avec Romain Duris. Mais on est en droit de se demander, est-ce qu'un film comme ça, qui correspond assez clairement à ce qu'on entend par cinéma populaire, cinéma d'exploitation, cinéma de genre, tout ce qu'on veut, serait passé dans une telle commission? Je crois pas. Il y avait eu un documentaire, je crois que le doc a maintenant un an et demi, et j'en parle pas parce que j'apparais dedans, mais si, en fait. ça s'appelle Les Cinéphiles de Maxime Solito. Il se base entre autres sur justement le blocage supposé du CNC vis-à-vis de ce qu'on appelle le cinéma de genre. Il y a un dialogue dans le doc, une interview qui rythme le doc avec le président du CNC, et il faut voir le nombre de fois où c'est un dialogue de sourds. Ouais. Quand il parle de pourcentage de films de genre produits, et que le gars du CNC dit, je sais pas, dans les 40% environ, que le CNC produisait, contribuait à produire 40% de films de genre, et l'autre lui dit, j'ai fait mes calculs, je suis tombé sur 4. c'est vraiment que c'est aussi un problème, encore une fois, de définition. Tout à l'heure, Jimmy disait que il y a des films comme ça qui sont en train de rentrer dans le classique à la Ozu qu'il faut avoir vu. Je pense qu'on peut mettre dans cette liste-là un film comme Le Suspiria d'Argento, oui, qui a été hissé subitement au rang de classique. Donc, on oublie volontiers qu'il a surtout survécu par des années et des années de vidéoclub, donc oui, clairement sur un public de base et bien, bien populo. Mais surtout qu'on oublie que toute cette vague de films d'horreur italiens qui ont été précédés par les giallo avant fonctionnait vraiment sur de l'exploitation. On a tiré le chaland avec une histoire de meurtre, d'enquête policière, etc.
La potentialité, voilà, de voir.
Le fait que ces films étaient produits en masse pour exploiter un filon permettait à certains petits malins de venir mettre leur patte artistique au poète-poète, et donc, dans le cas d'un Argento, d'en faire un film aussi improbable que Suspiria.
Suspiria, c'est pas compliqué. Moi, quelqu'un maintenant qui me déclare sa femme pour Suspiria, je me barre en courant. Alors qu'avant, quand j'étais ado, je me rappelle quelqu'un qui me disait qu'il aimait Suspiria. Oui. Tout de suite, ah ouais, toi aussi. Donc voilà. le rapport, il a changé parce que le, justement, des
ta
gens.
Vieillir, ta vie.
Non, c'est parce que c'est des gens qui se sont emparés d'un truc et qui l'ont dénaturé. Mais vraiment dénaturé. Alors, moi j'ai pas vu.
Ouais, je sais pas si c'est une bonne chose de s'en prendre à.
Aux gens qui aiment.
Aux gens qui aujourd'hui aiment à leur manière, plutôt que de proposer l'idée qu'il y a autre chose de plus important avant d'en arriver aux considérations de ces films-là aujourd'hui, c'est de se dire qu'est-ce qui a fait que ces films aient pu exister au moment où ils sont sortis, et pourquoi on a peur de ça, pourquoi on a peur de la notion de cinéma d'exploitation. Et justement des organismes d'État comme le CNC, je pense que c'est un gros mot pour eux, quoi. Il y a quand même l'idée de faire un cinéma épuré de toute notion commerciale, etc. Non, pourquoi le CNC est là pour aider à toute création de gens qui auraient du mal à se financer par d'autres moyens. Si ces gens ont envie de faire du pognon, ça ne devrait pas être un handicap.
De toute façon, cette commission, par son intitulé, par les gens qui en composent le jury, par le budget qui lui est alloué, est ridicule, quoi. Tout dans cette commission hurle à la face des gens qu'il ne faut surtout pas que le cinéma de genre devienne quelque chose de populaire et de se répandre. C'est purement un truc pour un petit cénacle, quoi. Voilà. Ils veulent en faire ça.
Et donc, encore une fois, on passe pour les éternels râleurs.
Parce
on a l'habitude.
On vous l'a mis, votre commission, et là, vous n'êtes pas content. On s'est même pas compris sur les termes de base. Quoi. Qu'est-ce qu'on entend par cinéma de genre, quoi. On entend un cinéma qui va vers son public. Et pourquoi n'arrive-t-on pas, non seulement à le financer au niveau de l'État en France, mais à le financer tout court, même dans les canaux dits commerciaux. On ne sait même plus. Un film que, justement, comme Dans la brume, apparemment posait des problèmes au service marketing de TF1 parce qu'ils savaient pas comment vendre des films comme ça. On peut leur dire, je sais pas, mettez un money shot, quoi, ce qu'ils ont fait dans la bande-annonce. Mettez des comédiens à la télé pour qu'ils disent aux gens, c'est extraordinaire, je me suis jamais autant fait flipper moi-même en me voyant sur un écran. Enfin, je sais pas, n'importe quoi, mais soyez des marchands de fêtes foraines, quoi. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est une maladie culturelle dans ce pays de refuser encore et toujours la notion foraine du cinéma.
On ira mettre abolition du CNC dans les cahiers de doléances lorsqu'ils les auront.
Non, mais moi je suis pas
lorsqu'ils les
du
auront
tout,
remis. lorsqu'ils les auront remis très prochainement au bout du jour. On l'espère en tout cas. On s'approche de la fin. Oui, mais bien sûr.
Une espèce de vilaine petite graine de séditieux.
Je suis un séditieux de base. On s'approche de la fin. Messieurs, vous pensiez y échapper, mais non, il reste un jeu.
sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Stéphane et Julien vont revenir, évidemment, participer à ce jeu qui est mon jeu préféré, puisque c'est l'instant VF.
Spécialiste des jeux.
Qui est donc, Stéphane, spécialiste des jeux. L'instant VF, qui est donc, pour ceux qui verraient ou entendraient l'émission pour la première fois, c'est un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Et donc, comme c'est en plus souvent, comme d'habitude, un film récent, c'est d'autant plus difficile à trouver. Celui qui trouve récoltera notre plus grande admiration. Jules, vous pouvez envoyer le premier extrait.
Je salue mes War Boys.
Mad Max Fury Road.
Bien joué, Arnaud Bordas.
Bah, War Boys. Hein,
ah ouais, oui, j'avais laissé un indice. J'avais laissé un indice.
Salut.
Allez, salut Stéphane.
Ah, c'est tout, il y en a qu'un.
Bah oui, vous voulez écouter le deuxième extrait, mais c'était l'extrait du même film, hein. Mais on peut mettre le, on peut le mettre. On peut le même.
Moi, je sais pas, je suis pas d'habitude.
Il s'est effondré. Non, mais chacun de nous à sa manière a été brisé.
Thomas.
C'était difficile de savoir qui était le
fou. C'est Jimmy Magista, ça y ressemble. Non. Bref, on me demande de passer des trucs, après ils écoutent pas. Bref, c'est l'anarchie totalement, cette émission. Ah, c'est à l'image de ce pays, Jules Croix. Tu trouves aussi, hein. Ouais, tu trouves aussi. Allez, on passe à la suite.
Jules Croix qui porte un gilet jaune.
Internet.
Ne le dis pas.
Internet.
On déballe donc, comme prévu, comme toujours, les questions de nos amis internautes et internautes qui nous disent qu'il y a des tensions entre Rafik et Arnaud, mais c'est faux. Il n'y a pas de tension
du tout,
entre
alors là.
Il n'y a que de l'amour entre Rafik et Arnaud et beaucoup, beaucoup de poils.
On leur dit qu'on couche ensemble.
Et ben, c'est pas la peine, c'est votre vie privée.
Ça veut dire qu'il y a de la tension, effectivement.
Effectivement.
Non, mais alors on n'est pas d'accord sur un truc, alors ça y est, il y a des tensions. Mais, qu'est-ce que c'est que cette société de merde?
Calme-toi, Arnaud. Calme-toi, tu me fais peur. Je vais sursauter. C'est pas grave. Frédéric nous demande ce qu'on pense de la fin d'EuropaCorp en tant que distributeur. Pas grand chose.
Non,
visiblement,
non, mais
c'est pas grand chose.
Non, mais c'est pas bien, quelque part. Okay. En tant que distributeur, je parle pas des histoires qu'il y a de coucherie derrière et tout. Mais
surtout que, visiblement, la fin programmée d'EuropaCorp date d'avant le scandale de.
Ah, bah oui, c'est plus de valeur. Il y avait les comptes dans le rouge et tout. Ouais. Hein,
comme tout le monde ici, j'imagine, pas fan de leur production, mais au moins, il y avait une production et ils avaient leur formule. Ils ont réussi à faire des succès internationaux et du coup à faire bosser des techniciens français, pas seulement des techniciens, des artistes aussi. Il y a des tas de gens qui ont pu faire des choses dans ce pays par l'existence d'un truc comme ça, d'un système comme ça. Le problème, c'est pas EuropaCorp, le problème, c'est pourquoi il n'y en avait pas d'autres. Pourquoi il n'y en a pas 5 ou 6 des boîtes de prod comme ça qui ont envie de conquérir le monde, quoi.
Très bien. Alors, on nous pose plein de questions sur Mortal Engines. Je précise que nous n'aurons pas parlé parce qu'il va y avoir une émission sur Mortal Engines qui sortira mercredi, que vous pourrez écouter mercredi. Donc là, vous saurez tout ce qu'on en a pensé à ce moment-là. Oui.
Mortal Engines, donc.
Oui.
Donc, il y a à la fois des pantalons et des mortiers. Donc, pardon.
Ça, c'est bien parce qu'en fait.
Vous n'êtes pas obligé de faire des blagues à chaque fois sur cette émission.
Honnêtement. Alex Cerveau, atomisé.
Oui, c'est vrai que.
Mais du coup, parce que ma blague horrible que les gens entendront dans le
sur Mortal Engine, qui voilà. Donc
elle était moins bien que les jeans, mais mais c'est un peu du même pays, quoi.
C'est un peu du même pays, effectivement, comme tu le dis. Du même tonneau. Voilà. On nous demande que maintenant que la Warner a rapporté plus d'argent avec des films à petit budget en 2018, on nous cite Crazy Rich Asian, A Star Is Born, The Nun, etc. Peut-on espérer plus de petits films? Moins de blockbusters, plus de petits films.
C'est la Warner, alors je ne sais pas sur tous les films, mais par exemple Crazy Rich Asian, c'est produit par Nina Jacobson, c'est une boîte indépendante.
Oui, c'est un indé.
Donc c'est peut-être la distribution de Warner. Après, c'est sûr que c'est des gros succès sur des petites productions, mais c'est un peu des coïncidences, c'est-à-dire que Hollywood aussi est en train de se structurer sur des licences hyper consolidées, hyper puissantes, qui n'ont pas forcément un taux de retour sur investissement hyper impressionnant, genre tu mises $1 et tu en récupères 100, mais qui commence à rapporter significativement. Et je pense que ça va plutôt être les exceptions qui vont continuer à confirmer la règle plutôt que l'inverse.
Et puis produire plein de petits films, c'est plus compliqué à marketer pour des boîtes comme ça qui sont des espèces de gros coups de canon internationaux. Oui. Donc sur un film, ça va, ils connaissent le plan. Mais c'était dès les années 70, Netanen avait eu un système comme ça où il avait fait le calcul que s'il produisait 10 films à 1 million chacun, le simple fait qu'un de ses films soit un succès lui remboursait tous les autres, oui, tous les autres films produits. Et pourtant, et ça a marché parce qu'il n'a pas eu un, mais deux énormes succès, American Graffiti et l'autre, je ne sais plus. Et pourtant, ça n'a pas tenu. Ça n'a, oui, pas tenu à cause du marketing, en fait.
Oui. Bon. Très bien. Maxime Solito, dont on parlait tout à l'heure, qui nous suit, donc visiblement, nous pose une question. Nous demande si Ad Astra de James Gray et West Side Story de Spielberg, on les attend grave ou juste vachement beaucoup.
La curiosité, surtout, comme, oui, à chaque fois avec Steven, quoi, et confiance aveugle de fans transis d'amour. Mais
ça, bon, Rudy Plerine, c'était pas terrible quand même.
Ah, oh, arrête. Et le James Gray, Ad Astra ?
Il a besoin de son coup de tension.
Oui. Non, vous en foutez du James Gray ?
Si, okay. Si, bah, James
je
pars,
je parle toujours, c'est vide.
J'attends ton coup de tension, Rafik, après l'émission.
Xavier nous demande si on pense que le Corto Maltese de Gans se fera quand même, malgré la mort de Samuel Adida, dont on parlait au tout début de l'émission.
Bah, a priori,
avec
c'est
Julien.
Parti. Hein.
A priori, c'est parti.
Ouais, ouais.
Vous pouvez nous en dire plus,
Arnaud Bordas ? Pas beaucoup plus, mais a priori, c'est en tournage.
Ok.
Ok.
Putain, la vache. Il me crie dans les oreilles. C'est épouvantable. C'est épouvantable.
On va avoir des plaintes, en fait, ouais, sur ce podcast en particulier.
À force d'acouphènes entre les alarmes et Arnaud Bordas qui hurle.
Les gens qui écoutent le podcast au volant de leur bagnole, ils vont avoir des accidents.
Je pense.
Peut-être qu'on aura un article de Zone Interdite, les podcasts et la santé mentale.
Les podcasts qui rendent sourds et fous. Mais ça, c'est juste les animateurs que ça rend fou. Hervé nous demande, c'est une question pour Rafik, tiens. Comment voir l'intégralité de l'interview de Yvan West-Lawrence sur l'accueil du manga en France, fait pour Arrêt sur Image? Il n'y a que 20 minutes sur le site. Scandale.
C'est vrai ?
Mais oui, scandale, Rafik Djoumi.
Bah écoute, je vais appeler Daniel.
Nous allons investiguer.
Et taper sur les doigts.
Nous allons taper sur Daniel Schneiderman.
En plus, l'enregistrement doit toujours être là. Donc,
ah, parce que tu l'as à ta pointe, ouais, fais ce que tu veux de Daniel. Quoi.
C'est ça. Tu peux le dire.
C'est moi, Arnaud Bordas.
Tu peux le dire. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois que c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se quitter. Si, non, on nous demande quand même. Seb nous demande si l'un d'entre nous a vu le documentaire de Peter Jackson sur la Première Guerre mondiale.
Non, pas encore.
Et non, pas encore. Donc on
il
pourra
est
pas vous dire.
Disponible en Albanie, je crois, il me semble.
Très bien. Eh bien, on ira tous en Albanie, comme disait.
C'est en couleur.
Michel Polnareff. Tristan, ne sois pas choqué.
Si tu veux qu'on chante.
Si tu veux, on chante. Il a dit
non, ne chantez surtout pas. Non, ne chantez pas. Tristan nous demande ce sera la dernière.
Je savais que j'aurais pas dû rester.
Pas dû rester. La dernière question. Ce sera la dernière question. Tristan nous demande on se regarde quoi comme bon film à la fin de ce live ? C'est la seule bonne
mais
question qui
vient. Putain, voilà ce qu'on va regarder. On en est là.
Jimmy, ça va pas ou quoi ?
Non, je sais pas. Je sais pas ce qu'on va regarder.
Non. Une suggestion pour nos amis qui nous regardent. Il est tard le soir, il est 22h.
On l'a tous plein.
Un boulard quelque
part. Ouais. Oh non, mais non.
Un petit braser là, voilà, allez hop.
Oh là, vous êtes d'une lourdeur, on va se quitter là-dessus. Merci à tous d'avoir participé. Je sais pas pourquoi je vous dis merci, c'est vraiment par pure politesse quoi, d'avoir participé. C'est une convention, c'est une vraie.
Que le préfet,
c'est une honte. C'est une pure convention sociale.
Rien,
coupe leur micro.
On peut même pas dire que c'est la faute d'Alexa.
Coupe leur micro, Jules, merci. Voilà, merci à tous, malgré tout, d'avoir participé à ce No Ciné Club. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Merci à Jules, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, à Juliette Livartowski qui a été bien courageuse. Binge Point Audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
Ta gueule ! Viens ici, sale enculé ! Salaud !
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real, frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.